c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chronique, reportage, interview, expérience radiophonique. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoir.fr.
Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette première radioconférence de la saison du Labo des Savoirs. Effectuer des modifications génétiques ciblées dans tout type de cellules, voilà ce que permet l'édition génomique. Comment ? Grâce à ce que l'on appelle des ciseaux moléculaires. Et s'ils ont gagné en efficacité au cours du temps, ces outils existent depuis les années 80 et suscitent autant d'espoir que de méfiance. Dernière révolution en date, 2012, et l'avènement du système CRISPR-Cas9 par la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna de l'université de Berkeley. Simple d'utilisation et peu coûteux, CRISPR-Cas9 a permis à l'édition génomique de gagner tous les domaines de la science et de la médecine. Pourquoi faire ? Eh bien, pour développer des modèles cellulaires sur mesure afin de progresser dans la connaissance du développement des organismes vivants, des maladies, ou encore pour tester des molécules thérapeutiques. Si la majorité des travaux en cours concernent encore la recherche fondamentale ou préclinique, de nombreux espoirs sont permis. Certains essais ont même débuté chez l'humain. Karim Sitayeb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut du Thorax, qui est une unité mixte INSERM-CNRS Université de Nantes. Et vous êtes spécialiste des cellules souches. À vos côtés, Vanessa Quillot-Chenoir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur d'études INSERM au Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie de Nantes. Votre mission à vous, c'est le développement de CRISPR-Cas9 dans ce laboratoire précisément. Et depuis 2018, vous avez entamé une thèse de 3 ans, elle est donc en cours, dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'édition génomique via CRISPR-Cas9. À vos côtés, Jean-Marie Hélan.
Oui, bonsoir.
Ingénieur de recherche à l'INSERM, responsable du plateau technique GenoCell Edit, je l'ai bien prononcé.
Parfait.
Où vous travaillez avec les chercheurs et les chercheuses dans leurs projets de recherche, ceux évidemment qui font appel à l'édition du génome.
C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs.
Alors une première question pour vous, Karim Sitayeb, pour comprendre l'édition génomique finalement, il faudrait peut-être commencer par rappeler comment est-ce qu'on modifie une séquence ADN.
Si je peux revenir un tout petit peu en arrière, en fait, avant d'arriver sur la révolution qui est l'édition du génome dans les cellules, notamment de mammifères, en recherche fondamentale, on utilise très couramment des enzymes qu'on appelle des enzymes de restriction. Donc ce sont des enzymes qui vont reconnaître des parties de l'ADN. Souvent ce sont des séquences palindromiques. Donc par exemple, donc vous savez que les séquences ADN, c'est 4 bases, ATGC. Et donc on peut avoir un ATT, TTA. Et donc AAT. Donc un palindrome. Et donc ces enzymes vont pouvoir couper ce palindrome et ça nous a, donc c'est issu du monde de la microbiologie, ça nous a permis de faire énormément de choses en construction, en génie génétique, notamment pour faire ce qu'on appelle des plasmides, qui sont des séquences circulaires d'ADN qui permettent de coder pour différents éléments, protéines ou autres. Et puis la recherche justement au niveau microbiologique a permis de faire plusieurs découvertes. Alors, avant d'arriver à la microbiologie, et avant l'arrivée du CRISPR, en fait, il y avait deux types de techniques en biologie moléculaire pour faire de l'édition du génome. La première, c'était, et je pense que c'est historiquement l'une des premières utilisées, le zinc-finger nuclease. et ensuite les talents. En fait, ce sont des techniques qui se basent sur la nature de facteurs de transcription. Ce sont des protéines qui reconnaissent des séquences d'ADN particulières pour induire ou réprimer l'expression de gènes. Et en étudiant la composition de ces protéines, on a réussi à trouver les séquences qui nous permettent de guider une nucléase dans le noyau pour pouvoir couper la séquence qu'on veut. Mais l'efficacité était moindre par rapport à ce qui est maintenant connu comme le CRISPR. Et donc le CRISPR, c'est un peu la même idée, c'est qu'on va guider une enzyme qui va couper l'ADN, et ce guide va se faire avec une toute petite séquence qui rend la chose assez facile. Et en fait, au final, la manipulation du génome, ça consiste à induire une coupure dans l'ADN. La cellule déteste ça et elle va chercher à réparer cette coupure. Et elle va le faire deux façons, très schématiquement. La première, ça va être d'essayer de rabouter les brins d'ADN. Et donc, généralement, ça va causer une mutation qui va, dans la plupart des cas, être délétère pour l'expression du gène en question. Ou la cellule va essayer de chercher une copie dans la chromatine sœur, parce qu'on a le génome en deux exemplaires, comme matrice pour rétablir la séquence originale. Et on peut utiliser cet aspect en amenant, nous, une séquence d'ADN qui va être homologue avec la séquence mutée et où on va pouvoir introduire des séquences d'intérêt, soit changer la mutation, soit même toute une protéine autre pour modifier le génome.
Donc c'est un petit peu plus compliqué que ce que voulait bien nous faire croire Monsieur ADN dans Jurassic Park. Hein.
Oui.
Alors, vous avez parlé de coupure, j'ai évoqué en introduction les ciseaux moléculaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un ciseau moléculaire, Jean-Marie Hélan?
Ah, eh bien, comme le disait Karim, on parle d'enzymes. Ce sont des fonctions qui avaient donc été trouvées dans des bactéries qui leur permettaient de se débarrasser des infections virales. Et pour garder la trace de l'infection, il y avait des motifs qui étaient incorporés dans le génome de la bactérie et qui lui permettaient, lorsqu'il y avait similitude entre ce motif dans la cellule, elle savait que ce n'était pas à elle et elle le coupait. Et donc, elle pouvait comme ça se débarrasser des exosomes, des petits ADN qui circulent comme ça, ou des virus. Donc, ces deux dames, Mme Charpentier et Doudna, ont décrit ce modèle, comme vous l'expliquiez. Et les protéines ont été donc clonées et mises à disposition. Et maintenant, en ajoutant l'enzyme qu'on appelle la Cas9, alors Cas, je ne sais plus exactement d'où vient le nom.
C'est CRISPR Associated.
Voilà, ça doit être ça.
Je ne sais plus.
On met donc cette enzyme. Je continue de développer. Et donc, cette enzyme, son boulot, c'est de scanner l'ADN. Elle se met sur les doubles brins de l'hélice d'ADN et elle le scanne. Et dès qu'elle rencontre un motif à trois lettres dans lequel il y a deux G qui suivent, elle s'arrête. Et dans ces moments-là, si on a ajouté le petit bout d'ADN dont parlait Karim qui matche avec la séquence, c'est qu'elle est au bon endroit, elle s'arrête, le système coupe l'ADN. Si les bases ne sont pas identiques, alors elle continue et avance comme ça. Et le génome entier est scanné jusqu'à tomber sur la zone que l'on a ciblée avec précision. Et quand les deux choses, l'enzyme est à sa place, ce qu'on appelle le petit guide, alors le short guide en anglais,
l'ARN guide.
L'ARN guide, merci. Voilà, l'ARN guide qui est à sa place. À ce moment-là, l'enzyme coupe sur les deux brins. Puis fait la réparation dont a parlé Karim.
En fait, si on veut faire une analogie simple, c'est un peu comme si vous aviez un document sur un traitement de texte et que vous cherchiez dans un document qui a plus de 9 milliards de caractères, 3 milliards de caractères, un mot en particulier. Donc vous faites un pomme F et puis vous cherchez, pomme F sur Mac, contrôle F, et vous cherchez et vous arrivez à trouver tous les motifs qui sont présents dans votre texte. Et donc l'idée du ciseau moléculaire, c'est ça, c'est de pouvoir localiser le motif qu'on voudrait pouvoir couper et une fois qu'on le trouve, induire la coupure.
C'est le principe du copier-coller qu'on rattache souvent au système CRISPR-Cas9.
Alors, Oui et non. En fait, il y a la possibilité de couper. Maintenant, si on veut coller, il faut qu'on amène quelque chose. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Nous, au laboratoire, par exemple, on essaye, donc on fait les deux possibilités. Donc, soit on induit ce qu'on appelle des KO, c'est-à-dire qu'on fait la coupure et on laisse la cellule générer une erreur, auquel cas on a une invalidation d'un gène. Soit on aimerait remplacer la séquence pour ajouter une mutation et avoir et mimer une maladie. Et dans ce cas, il faut qu'on amène quelque chose en plus dans la cellule qui porte cette séquence qui va être intégrée. Et si on veut retrouver ensuite les cellules qui ont bien intégré cette séquence, c'est plus compliqué parce que c'est un événement qui arrive plus rarement. Et donc, pas facile d'obtenir une population pure de cellules qui va avoir le fameux collé.
Alors, il existe plusieurs types de ciseaux moléculaires, 4, si mes informations sont exactes. Quel est leur rôle à ces ciseaux moléculaires et est-ce que l'objectif, c'est de s'adapter à différents types de cellules, donc qu'elles soient humaines, végétales, animales, voilà. Quel est leur rôle à ces différents types de ciseaux moléculaires?
Ces quatre enzymes, en fait, fonctionnent un petit peu pareil. Le but, c'est de couper l'ADN et d'utiliser les mécanismes de réparation naturelle de la cellule pour pouvoir soit faire du chaos, comme disait Karim tout à l'heure, donc éteindre un gène, ou rajouter, faire un copier-coller de ce qui nous intéresse. Et en fait, au fil des découvertes de ces différentes enzymes, on a découvert des enzymes de plus en plus faciles à utiliser et de moins en moins chères, en fait. C'est en ça qu'on a eu vraiment des avancées, et c'est en ça que CRISPR est vraiment révolutionnaire, parce que c'est un outil qui est à la fois très facile à développer, à designer quand on veut faire un projet, et à la fois aussi c'est pas très cher, puisqu'il n'y a vraiment que deux composants, comme vous expliquiez tout à l'heure Karim et Jean-Marie, il n'y a vraiment que l'enzyme en tant que telle et un petit guide ARN, et si jamais on veut faire un collé, un petit bout d'ADN en plus. Donc c'est quelque chose de très basique, alors que c'est vrai que sur les précédentes, par exemple les thalènes ou autres, c'était vraiment des choses très compliquées où il fallait faire de la synthèse de protéines très complexe, associer différents modules pour que ce soit très spécifique, et c'était vraiment pas donné à tout le monde, ne serait-ce qu'en expertise et aussi en termes de coût.
Ouais, et puis il y avait l'accessibilité. Je me rappelle quand j'étais en stage postdoctoral, il y avait eu l'avènement justement des zinc finger nucléases, donc c'était le premier outil qui permettait de faire de la manipulation de génome, donc c'était génial, une révolution dans le monde de la biologie moléculaire et de la biologie cellulaire. Et en fait, les personnes qui avaient mis en place ce système avaient posé un brevet qui avait été ensuite exploité par une boîte qui finalement s'est fait racheter par une autre boîte. Et au final, pour faire le design des éléments qui permettent d'utiliser le zinc finger nucléase, ça coûtait plusieurs centaines plusieurs milliers d'euros. Donc, ça peut être de 4 à 6 000 euros pour faire un design. Généralement, on en fait plusieurs. Donc, c'était très inaccessible financièrement. Lorsque les thalènes sont arrivés, donc c'est un peu le même principe que les zinc fingers, ça va être des domaines de protéines qui vont reconnaître une base, donc un domaine va reconnaître le A, un autre domaine va reconnaître le G, un autre le C, un autre le T, et puis on fait suivre ces domaines en fonction de la séquence qu'on veut cibler, et là, les chercheurs qui ont développé ça l'ont mis en open access. Donc tout le monde avait la possibilité de faire du design en ligne, donc là, énormément de développement en bioinformatique pour justement faire ces designs et faire soi-même les constructions, mais c'est des constructions qui sont très grosses et longues à faire, et le CRISPR, ça a été une simplicité en fait de la manip.
C'est une révolution technique plus qu'une énorme découverte finalement.
C'est littéralement, ça a ouvert un nouveau monde, donc il y a le côté technique, mais il y a la découverte en soi, c'était comprendre un peu comment les bactéries réagissent aux attaques virales. Mais l'application a été juste, ça a été l'ouverture d'un nouveau monde. Donc effectivement, il y a la manipulation du génome en soi. Comme le disait Vanessa, les gens ensuite ont muté la protéine Cas9 pour qu'elle ne fasse pas de coupure. Donc ça veut dire qu'on peut l'amener dans le génome où on veut, mais elle ne va pas couper. On peut la fusionner avec des domaines transactivateurs. Donc c'est des domaines qui vont permettre d'induire l'expression d'un gène qu'on cible, celui qu'on veut. On peut ajouter un domaine répresseur, donc il va éteindre l'expression du gène. On peut ajouter des domaines qui vont forcer le repliement de l'ADN, donc avec des grandes boucles d'ADN qui vont ramener des domaines les uns auprès des autres. On peut rajouter ce qu'on appelle des étiquettes moléculaires qui nous permettent après d'aller chercher spécifiquement cette séquence par des techniques de biochimie. Il y a l'étiquette fluorescente qui permet de savoir où est la protéine dans le noyau. En fait, il y a l'imagination est notre limite. Et il va y avoir d'autres développements. Le dernier, c'est les Prime Editing Guided RNA.
Donc, il y avait un prérequis qui, pour nous, est évident, c'est-à-dire que le génome est entièrement séquencé. C'est-à-dire qu'on connaît toutes les bases de tout le génome. C'est pour ça qu'on est capable de savoir où on va, puisqu'on a le livre avec toutes les lettres entières.
Et ça, c'est récent, hein, c'est depuis les années 2000,
Oui. Ça s'affine avec le temps.
Voilà. Et donc, à partir de là, c'est la base. Et après, effectivement, on a des outils qui aussi permettent d'analyser tout le génome, chercher tous les endroits. Parce que le motif qu'on cherche pour cibler un gène, il peut être présent ou presque identique ailleurs dans le génome. Et donc, c'est des séquences qu'il faudrait éviter, puisqu'elles pourraient couper notre site, les bons ciseaux. Mais en dessous, la toile, elle dépasse un peu et les ciseaux, ils coupent ailleurs sans qu'on le veuille. Donc, le design, comme il le précisait, ça consiste à trouver les ciseaux les plus propres qui coupent à un seul endroit si possible. Et s'ils coupent ailleurs, il faut qu'on soit capable d'aller voir s'ils l'ont fait ou pas, puisqu'on est capable de mesurer la coupure.
Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est ce qu'on appelle des effets hors-cible. C'est-à-dire que la facilité d'utilisation de la Cas9 et donc du CRISPR, c'est qu'il nous suffit d'identifier une séquence de 19 nucléotides pour cibler la zone d'intérêt. Mais le problème de la technique, c'est qu'il suffit d'avoir que 19 nucléotides. Et donc sur 3 milliards de bases, ces 19 nucléotides peuvent se retrouver ailleurs et donc on peut induire des coupures hors-cible et c'est ce qui rend pour l'instant l'utilisation en clinique un peu difficile, c'est d'être sûr que, et là c'est vraiment la bioinformatique qui va permettre d'identifier la séquence adéquate pour laquelle il y a le moins de chances d'avoir statistiquement une coupure hors cible.
On y reviendra là-dessus en deuxième partie d'émission. Karim Sitayeb, quelles utilisations concrètes, si elles existent aujourd'hui, de ce système, le CRISPR-Cas9, est-ce que vous faites dans le cadre de vos travaux sur les cellules souches précisément ?
Alors, donc, nous, on utilise des cellules souches qu'on génère à partir de patients. Donc, c'est ce qu'on appelle des cellules souches pluripotentes induites. Donc, on prend des cellules de personnes ayant une maladie génétique. Donc, dans notre laboratoire, on travaille notamment sur l'hypercholestérolémie. Et ces cellules sont reprogrammées à l'état de cellules souches, qui sont équivalentes à des cellules souches embryonnaires, et qu'on va pouvoir normalement différencier en n'importe quel type cellulaire. L'hypercholestérolémie est liée à des fonctions du foie, donc on les différencie en cellules de foie. On a mis en place une technique maintenant pour non pas avoir une différenciation en 2D, en deux dimensions sur du plastique pour avoir des cellules de foie, mais on a littéralement des mini-foies en trois dimensions. Donc ça nous permet d'avoir des fonctions de foie qu'on peut étudier dans nos boîtes de pétri. Maintenant, si on veut avoir une étude génétique précise, ce qu'il faudrait faire, par exemple, quand une personne a une mutation, c'est corriger la mutation et montrer que la maladie est guérie. Et donc, pour ça, on utilise le CRISPR. Donc, maintenant, l'utilisation du CRISPR pour l'édition du génome n'est pas si compliquée. En fait, on amène tout le matériel dans la cellule et la cellule va faire le boulot. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est de récupérer les cellules qui ont fait le boulot, parce que ce n'est pas efficace à 100%. Il va y avoir énormément de cellules qui auront d'autres choses ou qui n'auront pas fait du tout l'édition voulue. Et pour ça, il y a toute une approche de ce qu'on appelle sous-clonage. Donc, c'est essayer, une fois qu'on amène le CRISPR, on laisse les cellules quelques jours. Et ensuite, on les passe dans une machine qui va permettre de prendre les cellules une à une. Et on va les isoler dans des plaques avec des petits puits. Et donc, chaque cellule va ensuite pousser de façon clonale. Et on va analyser toutes ces cellules pour savoir quelle cellule a eu le bon événement de modification. Et auquel cas, on amplifie ces clones et on les utilise pour pouvoir faire nos expériences.
Donc là, on est vraiment sur un volet de thérapie génique.
Alors, c'est une espèce de thérapie génique vitro. En fait, ça nous permet d'être sûr que la mutation qu'on étudie est bien causale de la maladie.
step out into the fresh air and breathe.
In a kaleidoscope of thoughts on one side, hitherto is an oblivion, dreams hide. That's where your intellect dies. For you were on the quest to find the best of minds, and on your slime with minds, an intrepidly intricate, delicate syndicate networks, a scan of human grammar and manner. When did it happen? When I was rapping, the energy zapping, trapping. Your brain went insane, mundane, untamed, unclaimed, the region of the subconscious. Your feet falling in a vacuum, void, you're nauseous. As you vomit, you plummet like a comet, your stomach suppressed, so let your head self bulge your skull. So much salt in your cotton, so not cotton, so much cerebellum. I gotta tell him, it's swelling like a melon. Collie, three cranium card, molly. But I can see you peeking through an iron nasal ducket. Sorry, Charlie's in the middle, so I'm plucking the stick at the top of my pocket. I can't get a breeze.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
De retour donc au Labo des Savoirs, Vanessa Quillot-Chenoir, on l'a dit tout à l'heure, CRISPR-Cas9 est perfectible. En octobre dernier, on parlait tout à l'heure de copier-coller, et bien c'est un traitement de texte complet que dit avoir mis au point l'américain David Liu. Dans une étude publiée par Nature, il présente un outil capable de modifier le code génétique lettre par lettre, ATCG, vous les avez mentionnés tout à l'heure, Karim. Qu'est-ce que ça change concrètement si un tel outil fait ses preuves, finalement?
Mais c'est vrai qu'en thérapeutique, ça peut être vraiment très intéressant, très utile, puisque c'est vraiment très précis. Et puis en plus, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un outil qui est facilement utilisable, à moindre coût aussi, donc ça peut être vraiment utilisé dans beaucoup d'applications. Après, en fait, le problème surtout, c'est, comme on discutait tout à l'heure, les off-target, comme on appelle ça, donc c'est en fait ce qu'on n'a pas prévu, mais qui arrive quand même, en fait, tous les effets secondaires qu'on peut avoir, comme pour beaucoup de traitements. Et du coup, il y a eu des études, au départ en fait des CRISPR, il y a eu des études qui ont montré qu'il semblerait qu'il y avait pas mal de off-target, comme on appelle ça. Mais finalement, c'est vrai que petit à petit, les gens reviennent un petit peu là-dessus, parce qu'il y a de plus en plus d'études, on a de plus en plus d'outils, et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait eu certaines études qui n'avaient pas pris les bons contrôles, en fait, tout simplement. Puisqu'en fait, naturellement, dans le corps humain ou autre, il y a des mutations en fait spontanées qui se créent au cours de la vie ou dans les cellules au cours de la culture. Et ces mutations, en fait, si on les a pas bien, enfin si on n'a pas pris le bon contrôle, on peut les prendre pour des off-target de nos CRISPR, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui a eu comme problème en fait sur certaines études au départ. Et donc de plus en plus, il y a eu des études poussées avec maintenant donc ce qu'on appelle le NGS, c'est-à-dire c'est du séquençage au débit où on arrive à regarder vraiment chaque lettre du génome entier, à regarder toutes les zones du génome, et on arrive à se rendre compte vraiment de ce qui se passe ou pas. Et en utilisant les bons contrôles, on se rend compte que finalement il y a moins de off-target quand même que ce qu'on pouvait s'attendre. Mais il y a quand même aussi puisque c'est quand même le problème majeur en fait des CRISPR, il y a quand même eu de plus en plus d'études pour modifier les Cas9 ou même d'autres Cas pour qu'elles soient de plus en plus spécifiques, puisque c'est quand même le problème.
Et c'est l'enjeu du coup de l'amélioration de cet outil.
Voilà, exactement. C'est l'enjeu majeur pour l'apporter vraiment en clinique. Enfin, ça a commencé, mais voilà, en tout cas, pour vraiment que ça puisse être développé de plus en plus en clinique, c'est vraiment la barrière à franchir, quoi.
Mais du coup, je vais poser la question assez naïvement, mais a priori, plus on est précis dans l'édition génomique, moins on a de chances d'avoir des off-target, pour reprendre vos termes.
Voilà, normalement c'est le cas, mais comme on disait, le code génétique contient uniquement 4 bases, donc c'est vrai que si on prend le guide recherche 19, 20 bases à peu près, ben c'est vrai que sur tout le génome, il peut quand même croire qu'on est au bon endroit, alors que ça n'est pas le cas. Donc en fait, c'est précis. C'est simplement peut-être que soit la base n'a pas été designée comme il fallait, parce qu'on n'a pas pris en compte qu'il y avait une zone qui avait cette mutation, soit on ne le savait pas, puisque ben, c'est peut-être une mutation spontanée aussi qui a eu lieu à un endroit qui n'était pas prévu et qui ressemble en fait.
Juste un petit point, donc pour compléter ce que disait Vanessa, donc ces mutations ponctuelles qui existent, c'est... On est tous identiques, on a tous les mêmes gènes, mais ils ont quelques petits motifs différents d'un individu à l'autre. C'est comme ça, la nature a fait, elle ne se trompe pas, elle arrive à avaler. En général, ça code pour les mêmes protéines, il y a une variation entre tous les individus qui font des différences mineures, mais il a fallu faire des milliers de génomes humains pour savoir lesquelles étaient les plus fréquentes et d'autres qui sont très rares et certaines qui entraînent certaines maladies, mais il y en a plein qui font absolument aucun effet délétère.
Pour compliquer le truc, en fait, même au sein de chaque individu, on vient d'une même cellule qui va se diviser, se spécifier pour donner un individu. Donc la cellule a un génome qui ensuite est partagé sur toutes les cellules de notre corps humain. Et il y a ce qu'on appelle des mutations somatiques. En fait, il peut y avoir des mutations dans nos cellules sanguines qui ne vont pas être présentes dans les cellules de la peau, par exemple. Et donc ça peut générer des biais dans l'analyse du génome, spécifiquement quand on fait la modification de génome.
Donc, c'est-à-dire, ce que vous disiez, Jean-Marie Hélan, c'est que finalement, toutes les mutations génétiques ne sont pas forcément mauvaises ou ne portent pas à conséquences systématiquement. Ce serait que mutation génétique, on a l'impression qu'on va avoir un peu de lézard qui va pousser. Enfin voilà, on s'imagine plein de choses. Hein. Merci la science-fiction, mais pas forcément finalement.
Ça fait partie de la théorie de l'évolution, que chacun ayant gagné une mutation qui pouvait être bénéfique, l'espèce a dominé d'autres peut-être. Mais certainement, de nombreuses mutations ne sont pas délétères. Ça, c'est certain.
Oui, le génome est tellement vaste qu'il y a vraiment des hotspots ou des mutations qui sont maintenant connues vont être liées à des maladies et on identifie, pas tous les jours, mais quasi, des mutations qui vont avoir un lien avec une maladie de loin ou de près, ou au moins qui peuvent prédire l'arrivée de cette maladie. Il y a une scène dans Bienvenue à Gattaca où justement on voit... j'ai plus le nom de l'actrice...
Uma Thurman.
Merci. Uma Thurman qui amène à cheveux de Ethan Hawke pour le faire séquencer, donc au niveau de la racine. Et puis ensuite, elle se retrouve avec un rouleau. Et dans le rouleau, elle regarde plein de trucs. Alors j'ai été curieux pour savoir qu'est-ce qu'elle regardait vraiment. Et en fait, si on fait un arrêt sur image et qu'on grossit un peu, on voit des noms de maladies avec les séquences des gènes. Donc il y a par exemple une maladie que j'ai vue étudier dans les papiers, qui est par exemple la déficience en alpha-antitrypsine, une maladie du foie qui atteint les poumons. Et on voit ça dans la liste avec d'autres gènes qui sont impliqués dans ces maladies.
Donc finalement, l'amélioration de l'outil CRISPR-Cas9 passe avant tout par une étude approfondie des mutations potentielles du génome. C'est bien ça?
Si l'application est d'essayer de guérir, mm-hmm. oui, il faut absolument qu'on ait les informations. Et ça passe par le séquençage au débit, toute la bioinformatique qui est un travail monstrueux, qui est un peu loin de ce qu'on fait nous, mais il y a des personnes maintenant formées à ces outils et qui rentrent dans une dimension qui des fois nous dépasse.
Alors, on va parler un petit peu des essais cliniques qui ont démarré chez l'humain, principalement sur des maladies monogéniques, mais également en infectiologie ou encore en cancérologie. Et quand on parle de cancérologie, on voit bien que les enjeux sont quand même énormes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Karim Sitayeb?
Alors, j'aurais pas le point de vue du clinicien, donc je suis plutôt le chercheur qui regarde un peu de ce qui se passe avec. En gros, nous, on met en place des outils qui sont ensuite utilisés par d'autres pour pouvoir étudier certaines choses ou avoir un développement thérapeutique. Donc là, récemment, il y a eu une étude publiée sur la modification je crois que c'est des cellules T de l'immunité avec du CRISPR. Donc en fait, des personnes avec, j'ai plus exactement le type de cancer qui était développé, je ne sais plus si c'est un cancer sanguin ou si c'était...
Un cancer du sang.
Et en fait, les cellules T avaient été retirées de la personne pour pouvoir être modifiées par CRISPR et ensuite réinjectées pour en fait lever des inhibitions qui empêchaient ces cellules d'agir efficacement sur les cellules cancéreuses. Et trois patients ont été traités, donc deux avec pour l'instant une stabilisation de leur état et un patient qui a été traité depuis trop peu de temps pour avoir suffisamment de recul sur les effets du traitement.
Alors ça se passe quand même là ce mois-ci en fait, hein,
oui, c'est
en octobre,
tout récent.
Début novembre aux États-Unis.
Et on n'essaie pas de modifier l'individu, on n'est pas dans ce qu'a fait le chercheur chinois avec la génération de jumelles qui portent des mutations pour empêcher l'entrée du virus du VIH dans les cellules de l'immunité. On est sur une thérapie ciblée avec un but précis. Il y a d'autres développements qu'on peut voir. Alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est en clinique, mais par exemple, nous, on travaille sur l'hypercholestérolémie, on connaît certains gènes impliqués dans cette maladie. Des gens essaient de développer du CRISPR pour aller muter ce gène et montrer dans des modèles vitraux ou même animaux qu'on a une efficacité d'atteindre dans le foie de vecteurs spécifiques qui amènent le CRISPR pour avoir un effet dans le foie et pas ailleurs. Donc il y a vraiment énormément de stratégies qui se développent et qui vont bientôt arriver en application en clinique.
Est-ce qu'on peut néanmoins parler d'avancée ou c'est trop tôt?
Oui, je pense qu'on peut parler d'avancée. Et puis il y a en fait là pour l'instant on voit un peu ce qui sort médiatiquement, mais il y a énormément de choses qui bouillonnent de façon sous-jacente et qui vont arriver dans les prochains mois ou prochaines années. Donc non, il y a clairement une avancée et je pense que ce développement technologiques, moléculaires, participent grandement à ces avancées.
Alors, on a évoqué la Chine, on a évoqué les États-Unis, on a parlé évidemment de la recherche sur l'édition génomique en France. On voit bien qu'il y a quand même trois grands pôles de recherche en la matière qui avancent de façon dissociée ou en tout cas parallèle. Est-ce qu'il y a vraiment de grands écarts entre de recherche au niveau de la recherche sur cette thématique-là dans le monde?
C'est une question un peu compliquée parce que chaque pays a sa législation et donc pour le point de vue clinique, surtout pour vraiment si on commence à toucher à l'humain, c'est difficile d'avoir quelque chose pour l'instant d'homogène. Mais au sein de la communauté scientifique, il y a une prise de conscience de la puissance de l'outil, des conséquences que peuvent avoir une mauvaise manipulation de ces outils. Et donc, il y a un moratoire qui avait été proposé par les scientifiques pour justement avoir une décision concertée sur l'utilisation de ces technologies pour les applications cliniques ou autres et au niveau international. Et donc après, il y a des équipes scientifiques qui essayent d'aller plus vite que la musique, qui veulent un peu sous la pression, sous une espèce de mode de course à la lune, essayer d'être les premiers à faire les premières choses. Et donc c'est un peu regrettable, mais en tout cas il y a vraiment une réflexion à plusieurs au niveau international pour essayer de juguler un peu l'utilisation de cet outil puissant et de le faire à bon escient.
On a beaucoup entendu parler des ciseaux CRISPR dans les médias. Ce succès est-il mérité ?
CRISPR, effectivement, il y a un effet d'annonce qui est tout à fait spectaculaire, qui active l'imaginaire. C'est un outil révolutionnaire pour la biologie moléculaire, pour la recherche médicale. C'est un outil qui est très simple d'utiliser et qu'on peut se procurer maintenant de façon commerciale dans les catalogues.
Un biohacker a tenté sa chance et utilisé ses ciseaux pour devenir plus musclé. A-t-il réussi ?
Alors visiblement ça n'a pas fonctionné, mais il n'y avait aucune chance que ça fonctionne. C'est très compliqué de pouvoir espérer obtenir un effet thérapeutique en s'injectant un produit comme des CRISPR. Il faudrait que l'outil arrive à rentrer dans les bonnes cellules, qu'il ensuite arrive à rentrer dans le noyau de ces cellules pour arriver à couper le gène, et dans ce cas-là je pense qu'il ciblait le gène de la myostatine pour pouvoir faire gonfler ses muscles, et ensuite que les cellules génétiquement modifiées ne meurent pas. Et donc ce type de démarche est inefficace et un peu futile.
Dès 2015, des chercheurs chinois ont pourtant obtenu des résultats intéressants sur l'homme. Alors comment ont-ils fait ?
Donc les scientifiques chinois ont effectivement développé les outils CRISPR très rapidement pour des applications thérapeutiques, en essayant déjà au départ de voir comment ils pouvaient l'utiliser dans les maladies génétiques, mais ensuite aussi comment ils pouvaient l'utiliser pour combattre le cancer. Contrairement aux biohackers qui s'étaient injectés directement ces outils moléculaires dans son corps, là il s'agit de prendre les cellules au laboratoire, de les modifier avec ces outils moléculaires, et ensuite, une fois qu'on a vérifié qu'elles sont bien modifiées, de les réinjecter au patient. Donc c'est une garantie d'efficacité, de sécurité pour les premières utilisations de ces outils CRISPR chez l'homme.
Depuis, d'autres pays se sont emparés de cet outil et ont commencé des essais cliniques. Alors ça y est, une révolution est en marche.
L'utilisation de CRISPR explose complètement dans les laboratoires, mais c'est un concept quand même d'édition du génome qui existe depuis longtemps, et il y a déjà des essais cliniques qui sont réalisés grâce à d'autres outils que des CRISPR en Europe ou aux États-Unis qui permettent de faire de l'édition du génome dans du cancer, dans des maladies infectieuses ou des maladies génétiques. Les CRISPR suscitent actuellement beaucoup de faux espoirs. Ça sera certainement des outils thérapeutiques puissants, mais il faut comprendre les façons de les utiliser. Il faut vérifier que ces outils ne sont pas toxiques et il faut les développer comme tout autre produit, comme tout autre médicament. Il y aura beaucoup de développement à faire avant de pouvoir les utiliser correctement.
Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
Peut-on vraiment guérir d'un coup de ciseau ? C'est la question qui a été posée à Anne Galli, directrice de recherche INSERM, Canal Détox, qui est donc la chaîne YouTube de l'INSERM. Si vous ne connaissez pas, vous y trouverez plein de contenus intéressants. Anne Galli qui réexplique donc qu'effectivement CRISPR n'est pas encore utilisé à 100% de ses capacités et qu'effectivement, avant de penser à développer d'autres systèmes, tâchons de savoir utiliser celui-ci à bon escient. Karim Sitayeb, la génétique, c'est un thème dont s'est emparé depuis très longtemps la science-fiction, avec plus ou moins de justesse et de fantasmagorie, si je puis dire. Quelle œuvre, parce que je sais que vous êtes férus de science-fiction, quelle œuvre littéraire ou cinématographique, d'après vous, serait la plus proche, finalement, de la recherche actuelle ?
Alors, mon coup de cœur pour deux œuvres. La première cinématographique qu'on a fait référence avant, c'est Bienvenue à Kataka. C'est quand même un film qui est sorti à la fin des années 90. Pour moi, ça a été, quand je l'ai vu, une espèce de révélation sur les déviances qui peuvent subvenir avec ce type de connaissances, en fait, et l'impact que ça peut avoir au niveau sociétal. Et puis, le génome n'était pas encore séquencé, il n'y avait pas de manipulation du génome humain de façon aussi précise que maintenant. Donc, ça allait assez loin dans le concept, et en fait, quelque part, 20 ans après, on s'y retrouve. L'autre œuvre que j'affectionne particulièrement, c'est un des tomes de, c'est dans l'œuvre de Frank Herbert, donc Dune. En fait, dans Dune, désolé s'il y a un spoil, un des personnages, Duncan Idaho, en fait, meurt dans le premier tome du film, du livre, donc le film va bientôt sortir, et puis on le retrouve quelques temps plus tard, parce qu'il y a une civilisation qui s'appelle les Tlélax, le Bene Tlélax, et qui a inventé les cuves axolotles. Et des cuves axolotles permettent à partir d'une cellule de régénérer un individu. Donc c'est un peu ce qu'on fait nous avec les cellules iPS, que à partir, donc on régénère pas l'individu, mais on peut obtenir une cellule souche qui potentiellement pourrait donner un individu. Donc déjà il y a cette approche qui est assez, j'ai trouvé ça très novateur. Et puis après, donc le personnage va, en plus de pouvoir être répété comme ça dans l'histoire, va conserver sa mémoire, il va retrouver sa mémoire. Donc après, il y a tout un impact sur l'histoire. Donc ça, c'est un peu les deux œuvres SF pour moi qui sont très parlantes dans ce domaine.
Alors, on a beaucoup parlé de thérapie hein, jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'un des points névralgiques de l'édition génomique, celui en tout cas qui crée le plus de questions, notamment éthiques, c'est l'édition génomique sur l'embryon humain. Est-ce que c'est un enjeu, et qu'est-ce qui se passera si cette édition génomique sur embryon devient sûre et efficace? Alors là-dessus, Karim ou Vanessa éventuellement?
Alors déjà il y a plusieurs aspects en fait, parce qu'on peut faire de l'édition de génome simplement pour faire de la recherche, et là c'est vrai que c'est un outil fantastique, puisque on connaît pas, en fait pour le moment on n'a pas vraiment la capacité de bien étudier l'embryon humain, et donc c'est vrai que d'avoir accès à ces données là en étant capable de faire ça, autorisé à faire ça en tout cas, on va pouvoir mieux comprendre pourquoi certains embryons ne se développent pas. Et ça, c'est un grand pas pour la science, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'après, l'aspect, on y revient, thérapeutique, là c'est un autre problème, et c'est les mêmes problèmes en fait que l'on discutait tout à l'heure, avec quand même des aspects beaucoup plus importants, parce que là, les effets secondaires qu'on crée, qu'on en parlait tout à l'heure chez un adulte déjà formé, mais par contre, c'est vrai que sur un embryon en développement, ça peut être encore plus grave. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de bien connaître le système, de bien vérifier tout ce qui se passe pour qu'on minimise au maximum ces effets secondaires. Et c'est vrai qu'il faut, que ce soit appliqué, si un jour c'est appliqué, que ce soit appliqué vraiment dans des cas très particuliers et bien maîtrisé en tout cas.
Comme Vanessa le disait, l'utilisation des cellules souches embryonnaires, nous en recherche, ça a été quelque chose de capital, justement par exemple pour comprendre les effets, pour accéder déjà à la technique de reprogrammation. Donc c'est en étudiant les cellules souches embryonnaires humaines qu'on a pu mettre en évidence les facteurs qui sont impliqués dans le maintien de cette pluripotence, et de pouvoir remettre ça en place dans des cellules somatiques spécialisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation des cellules souches embryonnaires en laboratoire a été, c'est pas depuis si longtemps en fait, c'est depuis 98. Donc ça a été publié par Jamie Thompson de l'université Madison, et en fait il a trouvé les conditions de culture qui permettent de maintenir les cellules souches embryonnaires dans notre boîte de pétri et pouvoir étudier ça. Et donc l'édition du génome peut aider à comprendre le développement de certaines maladies, et surtout quand on n'a pas par exemple les cellules iPS d'une personne qui a une maladie en particulier. Disons que
les cellules iPS.
Donc les cellules iPS, c'est les cellules souches pluripotentes, c'est ces fameuses cellules qu'on peut générer à partir d'une personne et les faire revenir à l'état cellule souche. Donc si une personne a une maladie avec une des mutations connues, si on a accès à la maladie, on peut, enfin si on a accès à aux cellules, on peut les avoir au laboratoire pour l'étudier. Si on l'a pas, il faut qu'on déduise les mutations dans des cellules qu'on a, soit des cellules iPS ou des cellules ES, qui restent le gold standard de cellules pluripotentes en culture dans la recherche.
À la vitesse où la recherche en édition génomique progresse dans certains pays, est-ce que ce qui fait peur, c'est pas justement la démocratisation de ces techniques, puisqu'à partir du moment où on sait modifier, recoder un gène, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi?
C'est sûr que voilà, c'est le problème, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la communauté scientifique vraiment veut qu'il y ait aussi des barrières pour que les choses soient bien faites, parce que enfin, c'est vrai que pour nous scientifiques, s'il y a les personnes en fait qui passent les barrières et qui ne devraient pas, ben pour nous c'est une mauvaise image, et ce qu'on fait c'est important, et on veut que ce soit bien vu par le public, et c'est important que voilà qu'il y ait des règles pour que tout le monde les suive et qu'on puisse avancer dans les règles.
Ouais, ce qu'il faut, c'est il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit discuté, il faut qu'il y ait un retour sociétal, il faut justement multiplier ces échanges entre les chercheurs et la société. Il faut qu'il y ait des discussions sur bioéthique, donc quels sont les outils qu'on a, quelles sont les possibilités, quand est-ce qu'il faut arrêter les choses, notamment lorsqu'on commence à manipuler les vivants et qu'on génère une personne modifiée. Tous ces aspects en fait nécessitent d'avoir des garde-fous et de discuter avec des personnes compétentes.
Alors en France justement, l'Assemblée nationale a adopté en octobre dernier, le 15, la loi bioéthique en première lecture. Le législateur s'est donc prononcé sur les tests ADN. Ces derniers doivent se faire uniquement dans un cadre médical ou judiciaire, et les résultats ne peuvent être interprétés, exploités que par un médecin, un ou une médecin habilité. Alors existe-t-il finalement une réglementation dans le cadre de cette loi bioéthique ou non concernant l'utilisation de l'édition génomique ou pas du tout?
Alors j'ai une version du texte de loi, et je pense que c'est la version complète, et en cherchant dans le document, j'ai pas trouvé de choses sur l'édition de génome au niveau d'embryon, mais je pense je sais pas si c'est dans le même texte en fait. Là ce qui nous touche particulièrement, c'est l'utilisation des cellules souches embryonnaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des cellules souches embryonnaires qu'on utilise sont des cellules souches qui ont été générées il y a 20 ans, et c'est on ne génère pas de nouvelles cellules souches à partir de fœtus, d'embryons précoces, parce que on veut avoir des cellules fraîches. Donc on utilise ces cellules qui peuvent se maintenir en culture pendant des années, et donc ces outils sont accessibles et très aidants. Maintenant, la législation était très rigoureuse là-dessus, et donc c'était lié à une approbation je ne sais plus c'est quoi l'agence des biomédecines, pour laquelle il faut amener un projet qui montre qu'il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser des cellules souches embryonnaires pour pouvoir développer le projet. Et donc l'agence des biomédecines délivre une autorisation pour pouvoir utiliser ces cellules. Maintenant, on peut les utiliser, par exemple, si on a besoin de contrôle. Par exemple, nous, on utilise des cellules iPS. On aimerait avoir des cellules embryonnaires pour, en parallèle, pouvoir contrôler ça avec ce qui est le gold standard. Maintenant, on pourrait les utiliser au laboratoire, et si on les utilise, on avertit l'agence de la biomédecine qu'on utilise ce modèle, et on n'a pas besoin d'avoir une autorisation particulière.
Donc pas de réglementation formelle, mais une sorte de charte de bonne conduite
tout à fait,
à respecter.
Ouais.
Alors là, je vais peut-être faire réagir également Jean-Marie Hélan. En 2016, la CIA, je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2016, la CIA, donc aux États-Unis, a déclaré CRISPR-Cas arme de destruction massive potentielle, compte tenu de sa facilité d'utilisation. Est-ce que c'est exagéré ?
De mon point de vue, ça semble un peu exagéré malgré tout. C'est plutôt sur des micro-organismes qu'on pourrait créer facilement des nouveaux variants qui seraient peut-être très dangereux et pour lesquels on ne serait pas préparé à se défendre, parce que hein, les vaccins, tout ça, c'est fait pour les maladies qu'on connaît, mais si on est capable d'inventer des nouveaux virus, effectivement. Mais ça, ça existait avant, ça ne viendrait pas spécialement de CRISPR-Cas9. On l'a dit auparavant, c'est surtout les abus et les dérives qui peuvent être à redouter. Cet individu qui s'injecte lui-même son propre CRISPR, déjà il connaît que la moitié de les choses, parce que c'est pas comme ça qu'effectivement que ça pouvait marcher, donc c'est un inventeur.
C'était un étudiant du MIT. Juste pour rebondir, il va y avoir un reportage qui devrait sortir à la fin de l'année ou l'année prochaine, filmé par des Américains, qui initialement s'appelait Code of the Wild, et maintenant je crois que ça va être The Human Game, parce que le nom a été pris par autre chose. Et en fait, dans ce reportage, ils suivent le journaliste qui a levé le lièvre en Chine avec les jumelles, le biohacker, qui est un ancien étudiant de George Church, qui est un généticien à Harvard, et qui aussi aime beaucoup la polémique autour de l'utilisation du génome, le séquençage récréatif et la manipulation CRISPR, et qui soutient énormément son étudiant biohacker.
J'ai une anecdote à ce sujet-là. J'ai été contacté il y a déjà 2-3 ans par un individu qui visiblement avait créé une espèce d'association, alors je ne me rappelle plus très bien, c'était un peu obscur, et qui me demandait si on pouvait mettre au point un kit qui permettra à tout à chacun de faire un CRISPR pour quelque chose, ouais. sur l'étagère, comme on dit chez nous, en deux chèvres.
Par exemple, pour changer la couleur de ses yeux,
ce genre de choses.
C'est ça l'usage récréatif de CRISPR.
Franchement, j'ai été étonné que quelqu'un puisse concevoir lui-même d'essayer de se dire « je vais vendre des kits à grand public ».
Oui. Donc ce fameux biohacker en fait avait commencé à mettre en place ça, des kits pour donc les gens pouvaient commander, et la FDA lui est tombée dessus parce que les effets adverses étaient juste sans commune mesure, et c'était un peu n'importe quoi.
On voit bien qu'il existe donc des limites autres qu'éthiques finalement à l'édition génomique. Parce qu'on parle beaucoup de législation, d'éthique, etc. Mais bon, il y a quand même des limites techniques qui persistent.
Ah oui, il y a des limites techniques parce que nous, on l'utilise en laboratoire, en recherche fondamentale ou bien en plus appliqué en clinique avec la connaissance du métier. Donc on sait comment, à quelle dose mélanger les différents éléments, comment les amener dans les cellules, comment vérifier les cellules qui font le bon événement, comment étudier s'il n'y a pas d'autres mutations ailleurs. Enfin, donc il y a tout ça qui est quand même, qu'on ne voit pas, mais qui est effectué. C'est des vérifications de routinières qui sont effectuées et qui ne sont pas accessibles par une personne lambda qui aimerait pouvoir s'injecter du CRISPR.
Également aussi en obstacle technique, c'est vrai qu'on parlait beaucoup donc des deux aspects. On peut faire couper un gène ou insérer quelque chose. Et c'est vrai que pour faire du chaos, comme on dit, couper un gène, c'est relativement efficace dans la plupart des cas. Mais par contre, c'est vrai que l'enjeu majeur, là, c'est déjà en fondamental, où il faut déjà faire des progrès, c'est aussi pour insérer vraiment des grands fragments. Là, c'est quelque chose qui reste assez difficile à faire. On y arrive, mais avec des taux d'efficacité assez bas. Et donc, c'est aussi là-dessus que travaille beaucoup la communauté scientifique en ce moment.
J'ajouterais que les algorithmes et les logiciels qui permettent de trouver les bonnes étiquettes, ils sont en accès ouvert. Hein. Donc c'est un tout un chacun se connecte en rentrant à la maison et se dit tiens, tel gène, j'ai envie de faire un CRISPR, et la machine va lui donner
les
étiquettes. Après, il y a beaucoup de choses. Ce qui est le plus compliqué, c'est toute la structure de laboratoire, parce que on peut créer peut-être ce CRISPR dans un tube, moyennant un bain-marie à eau chaude à la maison à 37, je ne sais pas trop. mais bon, c'est quand même un peu plus compliqué que ça chez nous dans nos laboratoires. Et surtout, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on l'a créé, comme on l'a dit précédemment, toutes les modifications ne sont pas efficaces ou peuvent être mauvaises, donc il faut, nous après on trie dans tout ça. Si le premier qui fait, il n'a pas les moyens, il ne pourra pas.
Et heureusement.
Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
In the not-too-distant future, will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. In a society where success is determined by science, divided by the standards of perfection, one man's only chance...
How do you expect to pull this off?
I don't know exactly.
...is to hide his own identity.
This is the last day that you're going to be you and I'm going to be me.
...by borrowing someone else's.
Congratulations.
What about the interview?
That was it.
Do you think you'd be doing what you're doing if it wasn't for who you are, what you are?
I have a feeling you might be there under false pretenses, playing somebody else's hand.
They've got my picture plastered up all over the place. They'll recognize me.
They won't recognize
me. They'll recognize me.
I don't recognize you. They won't believe that one of their elite could have suckered them all this time.
They are going to find me.
But in a place where any cell from any part of your body can betray you, how do you hide? When we all shed 500 million cells a day. Ethan Hawke, Uma Thurman. Welcome to Gattaca.
Il n'y a pas de gêne pour l'esprit humain. Ils sont forts, ces Américains, quand même. Hein.
Le Labo des Savoirs, la radio savante.
Bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Retrouvez ce contenu et tous les autres sur notre site internet www.labodessavoirs.fr. N'hésitez pas évidemment à commenter ce que vous entendez, hein, ce que vous écoutez, regardez et lisez sur nos réseaux sociaux. Merci à nos invités, évidemment, Karim Sitayeb, Vanessa Quillot-Chenoir et Jean-Marie Elan pour vos éclairages. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.
Radio G 101.5 FM. We can take it slow.
take the time to show you that I can love you. I see us holding hands with family plans.